France Culture. France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Alors que l'affaire Betaram s'étoffe de semaine en semaine, de nouveaux témoignages sur le climat de violence et d'impunité des agresseurs qui a régné pendant des décennies, la commission d'enquête parlementaire sur les violences à l'école tente de mettre au jour les mécanismes qui ont permis une telle omerta. L'établissement n'a été contrôlé par les inspecteurs de l'éducation nationale une seule fois et qu'une seule fois en 1996, malgré les plaintes et l'écho dans la presse sur certaines affaires. Alors, d'où vient cette frilosité à imposer des contrôles aux établissements scolaires privé? Qu'est-ce que le caractère propre de ces établissements? Pour en parler, un invité ce soir, Pierre Merle. Bonsoir, monsieur.
Bonsoir.
Vous êtes professeur émérite de sociologie. Vous préparez un ouvrage sur les établissements privés dans la collection Repères de la Découverte, un ouvrage qui paraîtra au mois de septembre prochain. Et plaisir d'accueillir à côté de moi Julien Bisson. Bonsoir, Julien.
Bonsoir, Quentin.
Vous êtes directeur des rédactions de la revue Le 1. Merci à tous les deux d'être présents ce soir dans Question du soir. Une question toute simple, Pierre Merle, toute simple en apparence, sur l'affaire Notre-Dame de Betaram. Est-ce que la question du contrôle, de l'inspection de cet établissement est en question? Comment comprendre, au fond, que cet établissement n'a été contrôlé qu'une seule fois après toutes ces années? C'était en 1996.
Les contrôles, de façon générale, ont été très limités sur les établissements privés. Et c'est le cas de Notre-Dame de Betaram. L'inspection, d'ailleurs, n'a eu lieu qu'après une condamnation d'un surveillant général qui avait diminué l'audition d'un élève qui avait perdu 40% de son audition. Il a été condamné à coups et blessures volontaires à une amende de 5000 francs avec sursis, ce qui est relativement peu. Et l'inspection a eu lieu après. Ce qui est surprenant, c'est que l'inspection a considérer que régnait un climat de confiance dans l'établissement, ce qui est tout de même tout à fait contraire à la réalité. Donc, il y a peu de contrôle et parfois des contrôles complaisants.
Julien Bisson.
Oui, Pierre Merle, parmi les autres affaires qui ont défrayé la chronique de l'enseignement privé, il y a eu l'an passé celle du collège Stanislas qui était soupçonné d'un climat d'homophobie, de sexisme et d'autoritarisme. Or, Mediapart a révélé hier que les conclusions du rapport d'inspection sur Stanislas ont été falsifiées pour protéger l'établissement. Comment expliquer que ce rapport ait pu être ainsi expurgé sans l'accord des inspecteurs?
Alors en fait, les inspecteurs font leur travail. Et après, c'est à un niveau au-dessus que le rapport peut être éventuellement modifié. Il y a dans toute institution des boîtes noires, en quelque sorte. Et en l'occurrence, il y a une boîte noire qui n'est pas connue et qui tient probablement au fait que l'enseignement privé souhaite que ces contrôles soient limités.
Je voudrais vous faire entendre la voix de la ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne. Elle s'exprime au sujet d'un troisième cas d'école, si je puis dire, le cas Averroès.
Il y a plusieurs manquements graves qui ont amené l'État à résilier ce contrat. Le tribunal administratif a annulé cette résiliation. Moi, ce que je note, c'est que parmi les manquements, il y a notamment le fait que l'établissement a interdit l'accès à des inspecteurs de l'Éducation nationale pour pouvoir faire un contrôle de l'établissement. Et ça, c'est inacceptable. C'est un établissement donc sous contrat, ça veut dire qu'il est financé à 75% par de l'argent public et donc qui doit respecter un certain nombre d'engagements sur les programmes pédagogiques, sur l'utilisation de l'argent public, refuse un contrôle. Pour moi, ça légitime une forme de perte de confiance et donc de résilier ce contrat. Et donc, c'est ce que nous défendrons en appel.
Et on rappelle donc que le tribunal administratif de Lille a décidé mercredi 23 avril d'annuler la décision de la préfecture du Nord qui privait le lycée musulman lillois Averroès de contrat d'association avec l'État. Est-ce que l'on a affaire là, en l'occurrence, Pierre Merle, à un deux poids, deux mesures? C'est la différence entre ces établissements musulmans et les établissements catholiques qui est très souvent pointée dans la presse et par les spécialistes.
Alors d'abord, il y a effectivement beaucoup plus de contrôle des établissements musulmans. Ils sont contrôlés pratiquement tous les ans, ou tous les 2-3 ans, alors que c'est tous les 1500 ans pour les établissements privés catholiques. Et puis il y a effectivement deux poids, deux mesures, parce que si on lit le livret de rentrée Staninfo du collège Stanislas, collège catholique Stanislas. Il est indiqué que l'assistance aux cours de formation chrétienne dispensée chaque semaine est obligatoire. Un non-respect serait incompatible avec le maintien dans l'établissement. Cette clause est totalement contraire au principe de liberté de conscience des élèves qui doit être respecté dans les établissements catholiques. C'est dans l'article 1 de la loi Debré. Donc, il y a effectivement, je comprends tout à fait l'argumentation de la ministre de l'Éducation, mais il faudrait qu'elle aille jusqu'au bout de son raisonnement. Lorsque des principes de loi indiscutables ne sont pas respectés dans un collège catholique, eh bien, la même sanction devrait s'appliquer, la même sanction de sévérité.
Alors, on va essayer de comprendre avec vous, Pierre Merle, comment sont effectués ces contrôles, avec une première question de Julien Bisson.
Oui, vous disiez que, vous rappeliez que les lycées d'enseignement privé de catholiques sont contrôlés une fois tous les 1500 ans. C'est le rapport Vanier-Weisberg relatif au financement public de l'enseignement privé qui nous le disait. En 2023, seulement 5 établissements ont été contrôlés sur 7500. Comment expliquer que ce nombre de contrôles soit si bas? Est-ce que c'est une faute de volonté politique? Est-ce que c'est faute du nombre d'agents? Comment on peut expliquer ce nombre?
Les raisons sont multiples. Les deux que vous avez présentées sont tout à fait justes. Il y a un manque d'inspecteurs et puis il y a l'idée que les établissements catholiques sont responsables en quelque sorte du fonctionnement de leur établissement et qu'il est possible et qu'il est normal en quelque sorte de leur faire confiance. Alors, je dois ajouter que suite au rapport sur le financement des établissements privés qui est sorti l'année dernière, eh bien, le ministère de l'Éducation nationale a mis au point un guide de contrôle des établissements privés sous contrat qu'il a soumis, ce que je trouve d'ailleurs tout à fait normal, au secrétaire général de l'enseignement catholique. Celui-ci a réagi dans une lettre du 29 novembre 2024 et sur les 8 fiches qui présentent les contrôles de ces établissements catholiques dans le guide de contrôle, le secrétaire général de l'enseignement catholique a souhaité en supprimer tout simplement 2, qui concernent pour la fiche 5 la vie scolaire, c'est-à-dire ce qui est l'organisation des internats, et la fiche 8 qui concerne les types de sanctions en cas de manquement grave. Et de surcroît, le secrétaire général de l'enseignement catholique, Philippe Delorme à l'époque, souhaite un contrôle co-organisé avec l'établissement et le diocèse. On voit bien qu'il y a deux discours. Il y a un discours officiel qui est de dire « nous sommes pour les contrôles, nous ne les avons jamais refusés ». Et puis un deuxième discours qui est en quelque sorte en off, qui consiste finalement à limiter le plus possible les contrôles. Donc je pense que le ministère doit jouer son rôle de contrôler, éventuellement de façon inopinée. Et si la règle, c'est un contrôle pour les établissements musulmans en le sanctionnant en cas de manquement, cette règle doit s'appliquer évidemment pour les établissements catholiques privés.
En toute logique, Pierre Merle, on parle beaucoup de la quantité des contrôles. Il faut aussi parler de la nature de ces contrôles. Qu'est-ce que l'acte de contrôler au fond? Qu'est-ce que fait un inspecteur lorsqu'il arrive dans un établissement? Est-ce qu'il regarde la façon dont les programmes sont respectés? Est-ce qu'il regarde l'organisation plus générale de l'établissement? Quand on pense à Notre-Dame de Bétharram, est-ce que des inspecteurs auraient regardé, par exemple, examiné même la façon dont des élèves étaient traités?
En fait, il y a un certain flou sur les contrôleurs. Il y a des contrôles financiers, sur le respect des règles financières, des contrôles administratifs, puis des contrôles pédagogiques. Il y a un certain flou, en fait, sur ce que les inspecteurs ont le droit de faire ou de ne pas faire. Je vais vous donner un exemple qui concerne les établissements privés hors contrat, mais c'est le même problème et les mêmes logiques. Donc, il y a un guide de contrôle des établissements privés hors contrat. Et dans ce guide de contrôle, il est précisé que les inspecteurs, évidemment, discutent avec la direction de l'établissement, les enseignants et les élèves. Dans un certain établissement, la direction de l'établissement a indiqué qu'il ne souhaitait pas que les inspecteurs discutent avec les élèves en dehors d'un membre de la direction. Évidemment, s'il y a des sévices, des sanctions, des sanctions physiques, en quelque sorte, des violences physiques envers les élèves, comment le savoir s'il y a un représentant de la direction? Et ceci reste des domaines encore un peu flous. Et je pense que l'idée d'avoir un guide de contrôle des établissements privés est une très bonne idée. Encore faudrait-il que les établissements catholiques ne souhaitent pas systématiquement qu'il y ait un contrôle co-organisé avec le diocèse une sorte de négociation avant le contrôle. Je pense qu'un contrôle doit exister de façon inopinée, c'est la règle du contrôle.
Je voudrais vous faire entendre deux députés qui participent à la commission d'enquête sur les modalités de contrôle par l'État et de la prévention des violences dans les établissements scolaires. Il s'agit de Violette Spielboot et de Paul Vanier.
Il y a des carences très graves en matière de contrôle qui conduisent à la mise en danger d'enfants. Il faut que chacun le regarde avec lucidité et assume de faire changer le système pour garantir cette protection, pour empêcher d'autres bêtarames. Et nous aurons des auditions, il y aura de l'exigence. L'exigence, encore une fois, que quel que soit l'établissement scolaire où vos enfants sont scolarisés, ils ont la garantie, ils doivent avoir la garantie d'être bien protégés.
Et puis, vous savez, il n'y a pas que l'inspection académique ou la direction diocésaine qui est concernée. Je veux parler de la justice, il y a aussi les conseils départementaux qui ont la responsabilité de la protection de l'enfance. Mmh. Quand on voit aujourd'hui que les signalements ne prennent pas en compte, par exemple, les fugues nocturnes des internats qu'on retrouve à Bétarame, qu'on retrouve au village de Rieumont dans le Pas-de-Calais, eh bien, on se dit qu'il y a des trous dans la raquette et c'est là aussi qu'on va trouver des solutions et faire des propositions.
Question proposée par Julien Bisson.
Oui, alors Pierre Merle, il y a la question des contrôles eux-mêmes et puis il y a la question aussi du suivi de ces contrôles, de la remontée dont ils peuvent être l'objet et des conséquences qu'ils peuvent avoir. Est-ce que ces contrôles finalement sont efficaces ? Est-ce qu'il y a véritablement ces suivis des faits par la suite par la hiérarchie ?
Pour l'instant, le sentiment qui prédomine est que ces contrôles qui font l'objet souvent de recommandations à la fois pour les établissements privés hors contrat et sous contrat, ne sont pas forcément suivis. Pour ce qui est du contrôle du collège Stanislas, il en a été souvent question, Stanislas de Paris, il y a un certain nombre de recommandations qui ont été formulées dans le rapport. Est-ce que ces recommandations seront suivies ? C'est difficile de le savoir. Ces rapports sont si peu nombreux qu'il est parfois difficile de suivre leurs effets parce que les inspecteurs sont pris par d'autres inspections. Donc il y a un système qui tourne un petit peu à vide, faute d'avoir un guide de contrôle qui soit suffisamment précis, des rapports qui sont parfois complaisants, et puis un manque de suivi. Tout ceci, c'est à la fois un manque de rigueur de la part de l'établissement privé catholique quand il ne respecte pas tout simplement la loi, de la part du ministère, lorsque finalement ces contrôles ne sont pas suivis des faits, en dehors des deux contrôles des établissements musulmans qui ont abouti à des fermetures à Véroès et puis à Al-Kindi.
Est-ce que les établissements publics, Pierre Merle, sont plus ou moins contrôlés que les établissements scolaires privés ? Est-ce que là aussi on a des chiffres qui permettent de comparer les deux situations ?
Alors, dans le rapport de Vanier et Weisberg, il est indiqué que les établissements publics sont 10 fois plus contrôlés que les établissements privés. Donc, il y a bien deux poids, deux mesures également dans ce domaine. Et je dirais que c'est assez incompréhensible parce que la réglementation est tout de même beaucoup plus précise pour ce qui est des établissements publics. Et donc, à la limite, si les contrôles devaient être plus nombreux, je dirais que la logique, ce serait qu'ils soient plus nombreux dans les établissements privés. Sur les pratiques d'exclusion, par exemple, des élèves, il y a une réglementation très stricte pour ce qui est des établissements publics. Pour ce qui est des établissements privés, cette réglementation laisse beaucoup plus de liberté et donc moins de contrôle, beaucoup plus de liberté aux établissements privés. Ce qui aboutit à des exclusions qui sont parfois discutables.
Julien Bisson.
Alors Pierre Merle, la commission d'enquête parlementaire a présenté il y a un an sur le financement public et l'enseignement privé sous contrat, dénoncé l'obsolescence et la dérive d'un système mis en place il y a plus de 65 ans. Alors je vous propose qu'on fasse un retour en arrière en 1959, justement avec la loi dite Debré sur le financement de l'enseignement privé. En quoi est-ce que ce contexte était favorable à l'éclosion des écoles privées ? Est-ce que vous pouvez nous rappeler comment est née cette loi de financement ?
Alors, il y a tout un historique qui serait un peu long à faire, mais disons qu'à partir du moment où il y a eu gratuité de l'enseignement primaire décidé par Jules Ferry et après gratuité de l'enseignement secondaire décidé par le cartel des gauches en 1930, les établissements privés ont connu une diminution de leur part dans l'ensemble des enseignements qui ont été assurés par le public et par le privé. C'est Vichy, en quelque sorte, qui a donné une bouffée d'oxygène aux établissements privés en assurant une subvention exceptionnelle chaque année qui a redonné de l'assurance et puis de l'importance dans le système. Après la guerre, cette subvention a été supprimée et les établissements privés se retrouvaient de nouveau en difficulté. Et il y a une sorte de lobbying qui a été réalisé par les établissements privés, d'abord par le secrétariat général de l'enseignement catholique et aussi par une association parlementaire de défense de l'enseignement libre qui a œuvré pour que dans la loi de 1959, la loi Debré, eh bien, il y ait finalement une loi qui était très favorable à l'enseignement privé. Parce que, évidemment, cette loi préconise un certain nombre de contraintes pour l'enseignement privé, notamment scolariser tous les élèves, quelle que soit leur origine, leur opinion, leur religion, le respect de la liberté de conscience des élèves. Mais finalement, dans les faits, cette loi a été relativement peu respectée. Dès 1962, par exemple, l'épiscopat français demande aux établissements privés de faire la prière en début de classe et en début de classe, alors que c'est évidemment tout à fait contraire à la loi de 1959. Donc là, voilà.
Il faut revenir sur une notion absolument centrale hein, et déterminante même pour comprendre, j'allais dire, la façon dont ces établissements privés scolaires fonctionnent, la notion de caractère propre. De quoi s'agit-il, Pierre Merle ? Est-ce que vous pouvez nous l'expliciter ?
Alors, le caractère propre est relativement peu défini. Il a été défini par le Conseil constitutionnel en 1977 avec cette idée que le caractère propre, c'était la condition sine qua non de l'existence de l'enseignement d'un enseignement privé. Ce qui est devenu contestable puisque en 1984 a été créé un enseignement privé agricole qui n'a pas ce caractère propre. Donc on ne peut pas définir ce caractère propre comme une condition nécessaire de l'existence de l'enseignement privé. En fait, ce caractère propre, il est relativement peu défini. Il se définit, je dirais, au coup par coup. Lorsque dans la lettre du 29 novembre 2024, le secrétaire général de l'enseignement catholique indique qu'il ne souhaite pas que les internats fassent l'objet d'inspection, il y a là un point de tension sur qu'est-ce que c'est que le caractère propre. Est-ce que le contrôle des internats doit en faire partie? Je vous rappelle que c'est quand même dans les internats, c'est quelque chose qui a bien été établi par la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, que se réalisent la plupart des abus sexuels. Donc, en toute logique, les internats devraient faire l'objet de contrôle. Et idem pour les sanctions. Il y a des manquements graves, il doit y avoir des sanctions. Il y a un problème aujourd'hui sur l'échelle des sanctions. Soit il n'y a pas de sanctions, il y a juste des recommandations, soit il y a une sanction qui est une espèce de couperet qui est « vous n'avez plus de contrat ». Résultat, eh bien, comme c'est difficile de supprimer totalement un contrat, il y en a très peu qui ont été supprimés, eh bien, on aboutit à un système qui est relativement peu contrôlé et relativement peu sanctionné.
Julien Bisson.
Oui, vous rappelez que ce caractère propre est assez peu défini. Comment est-ce que son acception, justement, a évolué depuis 1959 et la loi dite Debré ?
Je dirais que il n'a pas été défini au départ, ce qui est quand même problématique dans l'article 1 de la loi Debré, compte tenu de l'importance du caractère propre, et qu'il a eu plutôt tendance à s'étendre par l'absence ou la faiblesse des inspections. Déjà, les décrets d'application de la loi Debré ont été très favorables à l'enseignement privé, notamment sur l'absence de définition claire du caractère propre et le fait qu'il y avait peu de contrôle qui était prévu. Et puis, finalement, en 1977, la loi Germer a considérait que les enseignants du privé étaient également soumis au caractère propre, qui devaient respecter le caractère propre. Ce qui pose un certain nombre de problèmes par rapport à la liberté de conscience des professeurs et même à la liberté tout court. Pour vous donner un exemple, un professeur du privé qui est divorcé et qui se marie a été licencié pour non-respect du caractère propre de l'établissement privé. Donc, on voit bien que même ce caractère propre finit par concerner les professeurs eux-mêmes.
Je voudrais qu'on remonte le temps, encore une fois, avec vous, Pierre Merle, jusqu'en 1984, et de ces manifestations hein, qui avaient bouleversé les rues de Versailles, puis de Paris. C'était le 24 juin 1984, les manifestations pour l'école libre.
Tous vos journaux ont fait leur gros titre ce matin et je sais quel est l'objet principal de vos conversations du jour. Je veux parler de la gigantesque manifestation organisée hier à Paris par les défenseurs de l'école privée. Plus d'un million de personnes dans la rue pour scander les mêmes slogans. C'est plus que l'expression d'une revendication, c'est un fait politique au sens large du terme.
École libre, vive France ! 2 millions de manifestants selon les organisateurs, 860 000 selon la préfecture de police. Au-delà de l'éternelle polémique des chiffres, l'enseignement catholique a incontestablement gagné hier son pari. De 9h du matin à 21h, une bonne partie de la capitale a effectivement été celle de l'enseignement privé. Des défilés au sein desquels, bien sûr, la classe politique d'opposition n'était pas absente. Aucun leader ne prendra officiellement la parole durant cette manifestation.
Pierre Merle, est-ce qu'on peut aussi comprendre ce problème des contrôles à l'égard des établissements scolaires privés parce que dans la classe politique depuis 1984, ces établissements, ce qui les entoure, leur organisation, sont des questions taboues?
Oui, ce sont des questions taboues. Et puis évidemment, l'échec du projet d'un grand service public unifié de François Mitterrand a abouti au fait que maintenant cette question, dès qu'elle est posée, cette question du contrôle en fait des établissements privés, aboutit à des réactions du type « vous voulez relancer la guerre scolaire ». Non, il s'agit d'appliquer tout simplement la loi de 1959 et les arguments de l'enseignement catholique qui consiste à dire qu'il constitue une seconde chance pour les élèves est en partie inexact parce que quand on regarde la sociologie de ces établissements privés, on constate que très massivement, ils scolarisent les enfants d'origine moyenne et aisée. Et sur les 20 dernières années, et même depuis 1960, la part des enfants d'origine populaire scolarisés dans ces enseignements privés diminue sensiblement. Or, les élèves qui sont en difficulté scolaire sont beaucoup plus les enfants d'origine populaire, et donc la seconde chance ne s'offre pas pour eux. Donc ce discours de la seconde chance est un discours qui est un peu trompeur, et ce discours qui est fréquent, vous voulez ranimer la guerre scolaire, c'est un discours qui consiste à empêcher le débat qui est nécessaire aujourd'hui compte tenu des abus qui ont été constatés. Je rappelle que la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église a constaté que, en dehors du cercle familial et des cercles amicaux, c'est tout de même dans l'Église, dans les établissements privés catholiques, dans les internats, qu'il y a eu le plus d'abus sexuels. La CIAS estime que 550 000 mineurs ont été concernés de 1950 à 2020. Donc c'est Bétarame, c'est pas un phénomène isolé, c'est juste ce qui a été observé. Mais dans les faits, c'est un phénomène qui a été systémique. Alors, il est en nette réduction parce qu'il y a beaucoup moins de prêtres à enseigner. Mais tout de même, c'est une question qui est centrale, tout simplement, pour la protection des enfants
Julien,
et des élèves.
Julien Bisson.
Concrètement, est-ce que la justice est plus réticente à se mêler de l'affaire, des affaires de l'école privée que de l'école publique?
Alors, c'est difficile à dire, mais ce que l'on peut constater, c'est qu'il y a eu un certain nombre d'arrêts de justice concernant les violences envers mineurs. Et ce que l'on constate, c'est qu'a été reconnu un droit de correction pour notamment les professeurs des écoles. Alors, ce droit de correction peut parfois se justifier. Pour vous prendre un exemple très précis, quand deux enfants se battent, les uns se tapent dessus, que l'instituteur leur demande d'arrêter et que finalement ces enfants continuent à se taper et qu'il y en a un qui démolit l'autre, le professeur des écoles, il était obligé d'intervenir par la force. Donc, dans un certain nombre de cas, on peut comprendre ce droit de correction, mais évidemment, ce droit de correction peut parfois être mal interprété et aboutir parfois à laisser entendre que finalement une bonne gifle serait éducative. Je rappelle d'ailleurs que dans l'histoire de la pédagogie, la correction corporelle a longtemps été considérée comme le béaba de la pédagogie. Ce qui était absolument nécessaire, c'était de châtier les élèves. Selon la maxime latine, qui bene amat bene castigat, qui aime bien châtie bien. Bon, on a l'impression que ce sont des méthodes très traditionnelles qui ont été mises en œuvre à Bétarame, peut-être ailleurs, et pendant très longtemps, en passant tout à fait à côté de toutes les révolutions pédagogiques qui reposent sur un traitement tout à fait différent de l'élève où on respecte son droit.
Pierre Merle, quelques mots, puisqu'il nous reste une minute seulement pour tenter d'aborder cette vaste question. Quid des établissements privés scolaires hors contrat cette fois-ci? Sont-ils contrôlés ou c'est encore, j'allais dire, pire que le reste?
Alors, ils sont contrôlés théoriquement d'après la loi Gatel, mais pour avoir eu la lecture des rapports qu'avait obtenu le Comité national d'action laïque, il y a des pratiques qui sont tout à fait surprenantes, de non-respect de l'égalité filles-garçons, par exemple, lorsque Les garçons ont le droit à 2 heures de sport et puis les filles 1 heure de sport et puis 1 heure de catéchisme, que les filles ne peuvent pas être présentes dans les groupes de responsabilité, que les délégués élèves sont choisis par les professeurs et non pas élus, il y a un certain nombre de dérives par rapport au respect du socle commun de compétences qui s'applique également aux établissements privés hors contrat. Donc les établissements privés hors contrat, c'est tout de même 80 000 élèves et pour lesquels il y a un certain nombre de problèmes qui sont indiscutable. Et de nouveau, pour reprendre ce que vous suggériez tout à l'heure, vous avez dit tout à l'heure, eh bien, on ne connaît pas les suites qui sont données au rapport. Il y a très peu de fermetures de ces établissements privés hors contrat, même des établissements pour lesquels il y a manifestement des dérives.
Merci beaucoup Pierre Merle de ces explications. Je rappelle que vous êtes professeur émérite de sociologie. Vous préparez un ouvrage qui paraîtra en septembre sur les établissements privés. C'est à la découverte. Julien Bisson, qu'est-ce qu'on a cette semaine? Qu'est-ce que l'on trouve avec grand plaisir, si je puis dire, dans les colonnes de l'hebdomadaire Le 1?
Eh bien, on vous invite dans la tête de Xi Jinping. Le président chinois va-t-il devenir le nouveau maître du monde en profitant des politiques erratiques de Donald Trump? Les mystères de Pékin, c'est dans ce numéro du 1 cette semaine.
Merci beaucoup et merci à tous les deux.